L'un de mes sujets de discussion préférés est certainement la relation corps-esprit. Comment notre corps physique traduit ce que nos émotions, notre mental, gardent comme caché. Et l'un des canaux de communication que notre corps utilise le plus est certainement notre ventre, notre intestin. Que celui qui n'a jamais eu l'estomac noué ou de l'air dans le ventre, entre guillemets, lève la main. Tout le monde connaît ça, tout le monde a un jour ou l'autre été confronté au message plus ou moins doux et subtil de notre intestin. Je suis Safia Ayad et aujourd'hui, je viens vous rappeler que votre intestin est votre meilleur ami. On entend souvent parler de notre intestin comme de notre deuxième cerveau. Deuxième oui, mais tout aussi important que le premier. En effet, notre intestin est comme le centre opérationnel de notre santé. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de partager cet épisode avec Anne-Laure Naudin, naturopathe depuis plus de 5 ans et experte de notre système digestif. J'ai connu Anne-Laure il y a 3 ans, lorsque j'ai décidé d'aller encore plus loin pour ma santé. À l'heure où tout va très vite, où on a accès à des dizaines de régimes alimentaires différents, j'ai eu besoin de me reconnecter à mon corps pour apprendre à l'écouter. Parce que même s'il existe de nombreuses théories, la seule qui compte réellement est celle que nous dicte notre corps. Et la naturopathie nous apprend à déchiffrer ces messages pour répondre à ses besoins. Avec Anne-Laure, on va parler de notre intestin, de son importance, de la meilleure façon d'en prendre soin, mais aussi de son étroit lien avec nos émotions et notre mental. Cette discussion, c'est finalement comme l'introduction de ce que l'on pourra voir pendant le séjour Inner Life de mars, celui qui est à l'occasion de l'équinoxe de printemps et qui nous amènera à réveiller notre corps de l'intérieur et de l'extérieur, et pendant lequel Anne-Laure viendra nous parler en profondeur de son approche pour réveiller le corps et harmoniser les émotions. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le sujet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Safia.
Alors avant toute chose, est-ce que tu peux me dire ce que tu as mangé ce matin ?
Alors ce matin, j'ai mangé un bol de céréales, un petit mix maison, pas des trucs achetés tout prêts. Il y avait du riz soufflé au chocolat, de l'amarante soufflée et du quinoa. Et après j'ai agrémenté ça avec des noix de pécan parce que j'adore tout ce qui est oléagineux, donc noix de pécan. Il y avait quelques noisettes et des amandes avec un petit lait de noisette. Voilà. Tout simplement.
Super. Alors, pour revenir un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venue à la naturopathie? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Parce que c'est un changement de carrière. Avant, tu ne faisais pas ça. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui t'a mené à ça et comment ça s'est présenté dans ta vie?
Alors oui, effectivement, avant la nature, de devenir naturopathe, j'ai eu différentes vies, plusieurs vies professionnelles. Et en fait, par contre, je me suis toujours intéressée, quand même assez tôt, je pense au début de ma vingtaine, grosso modo, aux médecines naturelles, surtout à la phytothérapie, donc les plantes, l'usage des plantes et aussi les huiles essentielles, l'aromathérapie. Parce qu'en fait, personnellement, je rencontrais des problèmes chroniques au niveau digestif, mais aussi à d'autres niveaux, qui m'ont amenée à consulter un certain nombre de médecins et de spécialistes qui m'ont donné différents traitements avec plus ou moins un grand succès, mais jamais de solution durable. Ça veut dire que sur toute ma vingtaine, plus ou moins, je me suis traînée ces problèmes chroniques. Et par moi-même, j'ai commencé à chercher des solutions et j'avoue que les plantes m'ont apporté pas mal d'améliorations. Mais je n'avais pas trouvé encore la solution définitive. Et il a fallu que j'arrive ici, à Barcelone, donc ça fait 13 ans que je vis ici, pour rencontrer la thérapeute qui m'a ouvert les yeux sur déjà l'importance de notre alimentation, que l'aliment, c'était notre premier médicament. Et aussi sur le fait que chaque personne a besoin d'une alimentation, d'une diète personnalisée, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, nos corps, nos métabolismes sont différents. Donc grâce à elle, en fait, elle a mis au point une diète personnalisée pour moi et on a couplé ça avec des suppléments naturels. Je suis arrivée enfin, de manière durable, à régler mes problèmes et ça a changé ma vie. Ça a été un grand soulagement pour moi. Donc ça, c'était la première vraie révélation sur le fait qu'avec des méthodes tout à fait naturelles, on pouvait on pouvait régler des problèmes chroniques qui, pour souvent en médecine allopathique, ne sont pas forcément des problèmes lourds. Mais le problème de la chronicité, c'est qu'au fur et à mesure, ben, ça fatigue énormément émotionnellement, psychiquement, psychologiquement les patients. Donc moi, j'en étais arrivée à peu près ouais, j'ai... là. Donc pour moi, c'était vraiment un soulagement, c'est ce que je te disais. Et après, alors... l'ultime déclencheur de mon changement de carrière, ça a été de devenir maman, la naissance de ma fille. Donc, je pense que ça doit te parler pas mal, qui véritablement m'a ouvert les yeux sur vraiment beaucoup de choses et vraiment la nécessité, le besoin, mais profond, c'est venu vraiment de loin en moi, à l'intérieur de moi, peut-être de mes intestins.
Moi aussi.
Vraiment de mes tripes en tout cas, cette nécessité de donner un sens vraiment profond à ma vie professionnelle. Et donc je la remercie, parce que ça c'était il y a 10 ans. Et du coup, suite à ça, je me suis formée... en tant que naturopathe ici à Barcelone, c'était une formation théorique de 3 ans au cours de laquelle on apprend comment fonctionne le corps. Donc on passe par tout ce qui est anatomie, physiologie, biologie cellulaire. Et puis après, on couple évidemment avec l'apprentissage des thérapies naturelles. Donc ça va de l'alimentation à la phytothérapie, les huiles essentielles aussi, quoi d'autre, les fleurs de Bac, les selles de Schussler, enfin il y a vraiment l'iridiologie, il y a vraiment toute une palette d'outils en fait qui nous est offerte. Et après en général chaque naturopathe a ses préférences et travaille avec les outils qui lui parlent ou qui maîtrise le mieux quoi concrètement. Voilà.
Super. Et du coup tu parles beaucoup de ta fille. Parce que finalement la naturopathie on en parle souvent pour les adultes, mais depuis la plus tendre enfance on pourrait inclure les théories de naturopathie pour nos enfants, non, dans leur diète au quotidien.
Oui, bien sûr, que ce soit au niveau de la diète, il y a aussi pour renforcer leur système immunitaire, il y a plein de choses qui peuvent aider, les oligo-éléments, les champignons médicinaux, on a tout un tas de... une batterie de suppléments naturels qui peuvent nous éviter d'arriver jusqu'aux médicaments. Le moins, ils vont prendre de médicaments petits, le plus leur système immunitaire aussi peut être renforcé, donc c'est intéressant.
C'est comme prévenir aussi. En fait. Finalement, voilà. C'est le faire aussi dès le plus jeune âge, c'est une façon de prévenir certaines maladies chroniques qui peuvent apparaître après.
Complètement.
Alors que généralement, c'est quand la maladie est là qu'on se dit, bon, qui je vais voir, quel praticien je vais rencontrer. Et du coup, pour faire simple, qu'est-ce qui différencie la médecine allopathique qu'on connaît tous? La médecine qu'on a envie de dire traditionnelle, mais ce n'est pas réellement la médecine traditionnelle, c'est la médecine conventionnelle plutôt, de la naturopathie.
Eh bien, c'est un peu ça. En fait, déjà, on a introduit sur la fin de ce qu'on vient de se dire. Déjà, la définition de la naturopathie par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est une médecine douce, préventive et éducative. Donc, on voit bien déjà dans cette définition... qu'on n'est pas sur les bases de l'allopathie. Il y a déjà des éléments qui sont assez clairs. Donc, une médecine douce, c'est quoi? C'est une médecine qui n'utilise pas de produits pharmaceutiques. On va traiter qu'à partir... Enfin, ça va être que des traitements naturels qu'on va utiliser. Donc, à savoir l'alimentation d'un côté et des plantes, des oligo-éléments, des vitamines, mais des choses naturelles. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose que je vois comme... grande différence. Après, il y a une seconde différence, c'est que nous, en médecine plus naturelle, on va dire, on va vraiment chercher à comprendre quelle est la cause du problème, aller à la racine du problème et traiter à partir de cette racine. D'accord ? En médecine allopathique, parfois c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas, surtout sur des problèmes chroniques le médecin va donner des médicaments qui vont soulager les symptômes du patient, mais à long terme, ça ne va pas vraiment le guérir. D'accord ? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Sur le coup, le patient va se sentir mieux, mais il va revenir. Et le problème va être récurrent. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à ces patients un peu en bout de course, qui au bout d'un moment, psychologiquement, sont à bout parce qu'ils ne trouvent pas de solution durable. Donc nous, on cherche à aller à la solution durable et pour ça, on va à la racine du problème et pas juste calmer un symptôme, soulager un symptôme. Donc ça peut être un peu long, parce que si le corps humain a mis du temps à se dérégler, bon, bah, il peut lui falloir aussi un peu de temps pour retrouver son équilibre. Mais on va toujours être dans cette optique d'aller prendre le problème à la source. Et après, eh bien, donc je disais qu'elle était douce et aussi préventive, cette médecine. Et alors là où je suis très heureuse depuis environ 2 ans, je vois énormément de très très jeunes, de la nouvelle génération, autour de 19, 20, 22 ans en consultation, qui n'était pas du tout le cas avant. Et là, il y a un réel changement de mentalité sur cette génération-là que je trouve exceptionnelle. Je vois vraiment des jeunes qui viennent à moi qui n'ont pas spécialement de problème, mais qui ont juste envie de savoir, de connaître les bases, d'apprendre pour justement être en bonne santé et éviter au maximum de développer bah, soit ces pathologies chroniques ou des pathologies plus lourdes. Mais ils se prennent vraiment en main. Et alors ça, j'avoue que pour moi, c'est un véritable bonheur parce que, comme tu le disais, on en vient souvent à consulter un médecin ou un thérapeute parce qu'on a un problème. Donc c'est quand même le gros de mes consultations, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de jeunes, notamment, qui viennent en mode préventif, et c'est comme ça qu'il faut l'envisager, la naturopathie, hein, c'est sa définition même. Et donc, bah, du coup, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce côté aussi préventif et éducatif, c'est-à-dire vraiment faire prendre conscience à l'individu qu'il a un réel potentiel, un réel contrôle sur sa santé, d'accord ? Et un incroyable potentiel d'auto-guérison. Mais ça, en médecine allopathique, on ne nous en parle pas, en fait. On ne nous met pas au centre. Enfin, la personne n'est pas l'acteur de sa santé, vraiment, je trouve. C'est toujours un peu... On est dans la réaction. Donc, en gros, c'est ce que j'essaye de faire avec mes patients. Leur faire prendre conscience qu'ils sont maîtres aussi de leur santé, même si, effectivement, il y a des facteurs extérieurs qui influent. Mais on a un potentiel en nous. Donc, il faut qu'on le chérisse et qu'on le développe.
Mais c'est vrai que, enfin, moi, la première fois que je suis allée te voir, j'avais quelques idées de comment fonctionnait mon intestin, mon système digestif, bref. J'avais lu 2-3 livres. Mais c'est vrai que le fait de t'avoir rencontré, d'avoir été plusieurs fois en consultation avec toi, ça m'a énormément appris pour qu'au quotidien, je puisse avoir aussi des réactions par rapport à un trouble que je pourrais sentir. C'est-à-dire qu'au quotidien, j'essaye d'avoir une alimentation équilibrée avec tes principes que tu m'as partagés, etc. Mais de temps en temps, j'ai envie de manger autre chose, tu vois. Et donc, après, je peux ressentir une espèce de déséquilibre au niveau intestinal et je sais maintenant d'où ça vient. Et j'arrive mieux à le comprendre et j'arrive mieux, du coup, à réadapter. Donc, ça a été un travail de quelques mois, quelques années. Mm-hmm. Et puis maintenant, je me sens en mesure de me prendre en main toute seule. Donc, c'est vraiment ça pour moi aussi, la naturopathie, c'est d'apprendre à être son propre, le propre chef de la barque, quoi.
Mais tout vraiment. À fait, c'est vraiment mon rôle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. La partie éducative, pour moi, elle est essentielle. Et c'est ça que j'aime, voir les patients me dire, bon, bah là, je suis sortie un peu du chemin. Mais c'est bon, après, maintenant, j'arrive, je sais comment... En fait, tout simplement, en faisant ce genre de travail, on devient beaucoup plus à l'écoute de son corps. Et les signaux sont envoyés d'une manière beaucoup plus directe au niveau de l'intestin. Des fois, on a des problèmes, on a des migraines, enfin, on a tout un tas de symptômes qui peuvent être liés, en fait, à notre alimentation ou la santé de notre intestin, mais on n'en prend pas forcément conscience parce que les signaux arrivent d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais si on commence à faire un peu de nettoyage et à connaître un peu les règles et suivre un peu les règles de base que je partage pendant mes consultations, eh bien, du coup, je vois à chaque fois que les patients reviennent dans les consultations suivantes. Et en fait, après, ils obtiennent automatiquement l'information de l'intestin. C'est beaucoup plus rapide et ils savent. Et après, du coup, bon, on a un réel pouvoir de rééquilibrage qu'avant, on n'avait pas parce qu'on est moins dans le ressenti. Là, ça aide à être plus à l'écoute de notre corps et du coup, ben, on découvre qu'on peut changer les choses nous-mêmes. Donc, c'est incroyable.
Et du coup, techniquement, comment se déroule... Bon, moi, je le sais, hein, je pourrais le raconter, mais j'aimerais que tu nous racontes comment ça se déroule une séance avec toi, en tout cas la première séance qui marque les bases de tout.
Ouais, la première séance, c'est vrai que bah, c'est un bilan très complet, ça dure 2 heures. Alors après, chaque naturopathe a sa façon, évidemment, de travailler. Mais bon, moi, je vais parler de ma première séance. Donc, ça dure 2 heures, c'est un gros bilan, au cours duquel déjà je prends beaucoup de temps pour faire l'anamnèse. L'anamnèse, c'est tout le passage où le patient va m'expliquer en fait quel est le ou les motifs de sa consultation. Et là, je laisse vraiment beaucoup de temps aux patients pour vraiment me faire l'historique, son historique médical, me raconter vraiment tout ce qu'il veut. Parce que je pense que cette partie-là aussi est très très importante, parce que moi, ça me permet de découvrir toujours plus de choses et de faire des connexions et de me dire, ah tiens, je vais aussi regarder tel système ou tel organe et pas seulement ça, par exemple. Et parce qu'aussi, je pense qu'en médecine allopathique, justement, le patient est des fois frustré parce que bah, les consultations, ça va très vite. Il n'a pas toujours le temps d'exprimer tout ce qu'il a à dire. Et on a besoin de temps pour exprimer nos problèmes de santé, c'est important. Donc ça, c'est la première phase. Après, une fois que tout ça, la phase du questionnement est passée, j'effectue un bilan. Alors moi, j'utilise une technique qui s'appelle l'organométrie fonctionnelle, qui va me permettre de mesurer comment circule l'énergie dans tous les organes et les systèmes du corps à travers nos méridiens. Les méridiens, c'est les canaux énergétiques qu'on a dans le corps. Donc, je vais d'abord tout mesurer parce que pour moi c'est intéressant de savoir comment circule l'énergie à tous les niveaux, dans tous les organes. Même si une personne vient me voir pour des problèmes d'allergie ou des problèmes de peau ou des troubles digestifs, je vais tout regarder parce que en fait le corps c'est un tout. Tous les organes travaillent ensemble, s'échangent de l'énergie, il y a des interconnexions de partout. Donc pour moi c'est important d'avoir une vue globale. Et après je vais rentrer plus dans le détail sur bah, les organes que je vais trouver en déséquilibre hein, au niveau énergétique. Les problèmes spécifiques que le patient souhaite régler. Et donc à ce moment-là, je vais regarder si je peux aider le patient, enfin s'il y a la nécessité de donner des suppléments naturels. Donc dans ce cas-là, comme je disais, ce sera que naturel. Ça peut être des probiotiques, des oligo-éléments, des mélanges de vitamines ou d'acides aminés, ce genre de choses, des champignons médicinaux, mais bon, que des choses naturelles, des plantes. Alors ça, c'est la première partie de la séance, on va dire, le bilan. Et après, toute la deuxième partie, donc je vais passer environ toute ma deuxième heure à vraiment, vraiment m'attaquer à l'alimentation. Premièrement, je vais procéder à un test d'intolérance alimentaire, toujours à travers grâce au système de l'organométrie, d'accord? Je vais voir en fait
On va dire que
comment...
c'est une machine qui mesure les énergies. C'est
Exactement.
pas, tu fais pas ça en regardant le
Non,
patient dans
non,
les
non, pas
yeux.
du tout. J'utilise la machine et je lis les résultats
Voilà.
concrètement. Mais c'est le corps qui va me parler. D'accord? C'est le corps du patient qui va me parler d'une certaine manière et moi j'interprète en fait les données. Et du coup, je vais utiliser aussi cette machine pour les aliments. J'ai un kit à peu près de 200-250 aliments qui sont bon, les aliments de base dans chaque groupe que tout le monde mange plus ou moins. Et je vais voir pour chaque aliment comment la personne se relationne à l'aliment. Est-ce que c'est un aliment qui lui fait du bien, lui apporte de l'énergie, dans ce cas-là, parfait. Ou au contraire, c'est un aliment qui va lui voler d'énergie, entre guillemets, provoquer de l'inflammation, accentuer les symptômes qu'il ressent, provoquer de la fatigue, enfin tout un tas de choses. Et dans ces cas-là, on va enlever ces aliments. Pendant un temps, pas pour toute la vie, mais pendant un temps, le temps que le corps se fortifie et accepte à nouveau de les réintroduire. Donc après, ce que je ferai, c'est que dans un deuxième temps, je réinterrogerai quelques temps après, en général à peu près autour de 2 mois, je réinterroge le corps pour voir s'il est prêt à réaccepter tel ou tel aliment qui a très certainement plein de bénéfices, mais qui, lors de la première séance, ne lui conviennent plus forcément. Hein, parce que bah, tous les aliments ne nous conviennent pas et on est tous différents. Donc ça, c'est l'idée du test d'intolérance. Donc à l'issue du test, le patient repart avec une liste d'aliments, il sait ce qu'il peut manger, ce qu'il faut mieux qu'il évite. Et la fin de la consultation, alors là, je partage encore tout un tas de petits conseils et de tips, et je finis par la combinaison d'aliments, qui pour moi est très très importante, je pense. Parce qu'en fait, on n'a pas conscience de la perte d'énergie qu'il y a dans chacune de nos digestions. Mais c'est absolument énorme. C'est un des processus métaboliques qui utilise le plus d'énergie. Et une digestion normale, normalement, se fait en 2 heures. Mais parce qu'on a tendance à pas bien combiner les aliments entre eux, on peut facilement allonger ces digestions à 3 à 4 heures. Donc, sachant qu'on mange au moins 3 fois par jour, voire plus. Eh bien, tu te rends vite compte qu'il y a des journées où on passe quasiment notre journée en digestion totale et il reste assez peu d'énergie pour le reste. Donc, c'est vraiment expliquer ça à la personne, qu'elle ait conscience de ça Et ça va lui permettre déjà, une, d'alléger ses digestions, si elle a tendance à avoir des digestions un peu lourdes ou lentes, et d'avoir un gain d'énergie sur tout le reste du corps, les autres organes, et donc d'une manière plus générale. Donc ça, c'est très efficace, ça fonctionne bien. Et aussi parce que selon les problèmes qu'on trouve, si par exemple quelqu'un qui a un dérèglement de flore intestinale, si d'un côté je lui donne des suppléments, des probiotiques ou des plantes pour réguler, mais de l'autre côté il continue à nourrir son intestin avec les aliments qui vont nourrir plutôt ses bactéries, je veux dire, plutôt que son intestin, ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, moi, dans ma théorie, y a les suppléments naturels, c'est bien, c'est une chose, mais c'est pas suffisant. C'est ce que moi, dans mon expérience personnelle, hein, avant de rencontrer cette naturopathe, j'avais vécu. J'avais vécu des améliorations, mais j'avais jamais vécu la solution définitive. Et c'est quand j'ai compris qu'en fait, si je ne le couplais pas avec l'alimentation vraiment adaptée, je pourrais pas avoir une solution durable. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en lumière auprès de mes patients, que l'alimentation est clé, quoi qu'il arrive.
Donc on parle beaucoup de l'intestin, on a l'impression que c'est un truc hyper important, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi c'est fondamental d'en prendre soin, à quoi il sert aussi, c'est pas juste, ça sert pas juste à éliminer finalement, ça sert à plein d'autres choses, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans ce détail-là ?
Oui, la première chose, c'est que notre intestin grêle, hein, qui va être la première partie de notre intestin, c'est l'endroit où on va absorber les nutriments, d'accord ? Donc les nutriments qui vont provenir de nos aliments principalement, éventuellement de suppléments, mais principalement de nos aliments, on va dire. Donc un intestin grêle qui est inflammé, dont la muqueuse est inflammée, va pas permettre l'absorption totale des nutriments, des aliments, et je tiens à le dire, des suppléments aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-supplémentent, hein, c'est une tendance. Et parfois on ne sait pas, mais notre intestin grêle est inflammé et du coup on ne va pas pouvoir non plus absorber la moitié de ces suppléments qu'on achète. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça c'est la première chose. Après pourquoi ? Parce que la dernière partie de notre intestin, donc qui est notre gros intestin, qui est le siège de notre flore intestinale, eh bien là aussi il est important que cette flore intestinale elle soit équilibrée parce qu'elle est très liée à notre système immunitaire. C'est un peu sa base. Donc voilà pourquoi. Aussi parce que on en a, tu l'as introduit au départ de cette conversation, le lien entre l'intestin et le cerveau est direct. Hein, il y a des connexions du système nerveux entérique, qui est une partie de notre système nerveux qui se fait directement dans notre intestin. Donc ça veut dire que les deux sont en communication directe. Donc si il y a des déséquilibres dans l'intestin, ça va envoyer des signaux négatifs vers notre système nerveux. Ces signaux négatifs, on les connaît tous, c'est quoi ? L'anxiété, le stress, l'irritabilité, la dépression, ce genre de choses. Et à l'inverse, si on a un intestin vraiment en pleine forme, et ben ça va plutôt envoyer des signaux positifs à notre cerveau. Donc c'est ce dont on a envie. Donc oui, je pense que nos humeurs et notre intestin sont très liés.
Ouais, donc c'est pas juste histoire d'avoir un ventre plat et de se sentir léger, c'est aussi d'être en bonne, d'être de bonne humeur et de se sentir en équilibre aussi émotionnellement. Et justement, il y a de nombreuses études qui montrent aujourd'hui à quel point notre régime alimentaire, notre style de vie, nos habitudes peuvent avoir une incidence très forte sur notre santé. Et donc on appelle ça l'épigénétique, c'est vraiment se rendre compte à quel point notre lifestyle, pour dire les choses un peu globalement, agit sur notre santé. Mais est-ce que tu penses que l'alimentation, c'est vraiment le premier levier que l'on puisse activer, ou est-ce qu'il faut tous les activer en même temps, genre avoir un bon lifestyle, bien manger, pas vivre dans un endroit trop pollué, tu vois?
Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a cru que notre destin était inscrit dans nos gènes. Et maintenant, toutes ces études scientifiques tendent à prouver que, effectivement, notre environnement influence, a un impact sur l'expression de nos gènes, leur fonctionnement et aussi l'apparition des maladies qui parfois se passent de génération en génération. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est hyper important. Maintenant, des facteurs environnementaux, il y en a plein. On les connaît, tous ceux qui sont très à la mode, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, notre qualité de vie, l'air qu'on respire, notre alimentation, comme tu viens de le dire, le stress, beaucoup de facteurs externes. D'une certaine manière, j'ai envie de te répondre oui, ça va être le premier levier. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le plus facile au niveau de l'individu, c'est le premier levier qu'on va pouvoir modifier. Il y a des facteurs environnementaux qu'on va avoir plus de difficultés à maîtriser, parce que d'un point de vue individuel, l'alimentation, on ne peut pas dire qu'on peut pas faire un effort dessus. Même si des fois, c'est dur de tracer un peu d'où viennent certains aliments, on peut faire des efforts. Donc pour moi, je dirais que d'un point de vue individuel, c'est le premier, parce que c'est le plus facile à bouger.
On a parlé aussi du fait que notre système digestif, notre gros intestin particulièrement, était très lié à notre cerveau et donc à nos émotions aussi. Est-ce que c'est ce qui t'a emmené aussi à te spécialiser dans les fleurs de Bach, ces élixirs qui nous accompagnent émotionnellement ou au quotidien ou sur des courtes périodes pour des stress momentanés? Est-ce que c'est cette complémentarité avec les naturopathies qui t'a donné envie d'approfondir les fleurs de Bach?
Alors, les fleurs de Bach, en fait, je vois pas vraiment ça comme quelque chose de complémentaire, mais vraiment partie intégrante de la naturopathie, comme un outil de la palette du naturopathe. Après, effectivement, il y a des naturopathes qui ne l'utilisent pas du tout, hein, parce que, comme je te disais, on a tous nos préférences. Mais moi, j'ai vraiment eu un cursus... Enfin, pendant mon cursus de naturopathie, j'ai eu un module de fleurs de Bach qui était assez poussé. Donc, je vois ça vraiment comme un outil, tu vois. Un outil à ma palette. Donc pour moi, c'est pas complémentaire, ça fait partie de ça. Après, c'est vrai que les fleurs de Bach, en gros, elles cherchent à harmoniser en fait les émotions négatives, hein, parce que le docteur Bach, en son temps, quand il a développé les élixirs, il a mis en lumière que ces émotions négatives pouvaient influer sur notre système immunitaire. Donc comme avant, je t'ai expliqué que notre flore intestinale, par exemple, était la base de notre immunité, on peut se dire que, oui, tiens, émotion, intestin, une fois de plus, hop, il y a encore quelque chose là. Ça se retrouve, ça se relie. Donc peut-être que naturellement, c'est pour ça que je sais pas, en fait. Je m'étais pas trop posé la question, mais c'est fort possible que comme l'intestin m'intéresse beaucoup, naturellement, je me sois dit, tiens, il y a un lien aussi ici. Et parce que je trouve que c'est une méthode tellement douce aussi de travailler les émotions, et parce qu'aussi, on peut travailler les fleurs de Bach sur les enfants. Les femmes enceintes aussi peuvent prendre des fleurs de Bach diluées. Donc, du coup, je trouve ça, tu vois, assez facile à utiliser. Et c'est vrai que sur les enfants, par exemple, ça marche très bien, parce qu'ils ont beaucoup moins de couches de protection. Bon, nous, avec l'âge, évidemment, c'est forgé une carapace, mais les enfants, ils n'ont pas encore toutes ces protections. Donc, c'est une thérapie énergétique, hein, les fleurs de Bach. Donc, ça, sur les enfants, je travaille pas mal sur les troubles du sommeil, les cauchemars ou d'autres problèmes, et ça fonctionne très bien. Sur les adultes aussi, mais il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs.
Et enfin, pour conclure cette conversation, malgré le fait qu'on soit tous différents et qu'on ait tous des besoins différents, est-ce qu'il y a un conseil qui serait universel que tu pourrais donner et que toutes les personnes qui sont actuellement en train d'écouter le podcast pourraient mettre en pratique là, dès qu'ils auront fini d'écouter le podcast, ils pourront le mettre en pratique?
Ah bah oui, ça, il y en a un, c'est respirer. Respirer en conscience le plus possible. C'est-à-dire que si on peut déjà prendre un peu de temps pour respirer en conscience, le matin au réveil, le soir au coucher, et alors en plus, si on peut s'ajouter 2-3 moments dans la journée, ça n'a pas besoin d'être long, hein. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes maximum. Il y a des gens qui se mettent des rappels, il y a des gens qui utilisent des apps, il y a différents types de respiration aussi, hein, selon le but qu'on recherche. Mais franchement, si j'ai un seul conseil à donner, c'est celui-là. C'est respirer en conscience le plus possible, parce que, pourquoi ? Parce que l'oxygène, c'est le premier aliment de nos cellules, donc le plus important. Donc, c'est à la base de toute vie cellulaire. Donc, ça va nous permettre bien respirer, mais tout un tas de choses, de lutter contre le stress, l'anxiété, la dépression. Ça a une action sur la gestion du poids, sur l'hypertension. C'est infini, hein, sur le sommeil, sur la clarté d'esprit, enfin, il y a vraiment c'est vraiment un gros levier. Donc pour moi, c'est un peu le premier aliment, l'oxygène, c'est le premier aliment de nos cellules.
Génial.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci, et puis de toute façon, on se retrouvera en mars.
Ouais, j'ai hâte
pour euh, pour approfondir encore plus tout ça avec les personnes qui seront présentes lors du séjour The Inner Life. Mm-hmm. Et que tu puisses aussi répondre à leurs questions, peut-être individuelles si elles en ont, et qu'on puisse aussi parler des fleurs de Bac encore plus. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'étais très contente de partager ce moment avec toi.
Bah, moi aussi, merci Safia.
À bientôt.
À très bientôt.
J'ai eu un plaisir immense d'échanger avec Anne-Laure. Je crois que j'aurais pu continuer cette conversation encore des heures parce que ce sujet est tellement vaste, tellement passionnant. Et j'espère que vous avez pris le même plaisir que moi et que vous en sortez nourri et même encore mieux informé. Plus tard en off, on a continué à discuter sur la complémentarité des médecines douces avec la médecine allopathique. Et c'est vrai que moi-même, en tant que coach de santé, j'aimerais tellement pouvoir continuer à faire des ponts entre ces différentes pratiques qui, selon moi, sont la clé finalement pour une éducation complète au sujet de la santé. Et je sais que vous êtes nombreux à penser comme moi. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire sur SoundCloud, sur iTunes Podcast. C'est toujours un plaisir immense de vous lire. Et puis si le cœur vous en dit, partagez cette information. Partagez cet épisode pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à une vision différente de la santé. Et je suis certaine que ça aura un effet positif sur beaucoup de gens. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes votre meilleur allié. Votre partenaire le plus précieux quand il s'agit de prendre soin de vous-même. Je vous embrasse et vous retrouve très vite. À bientôt.